lecture de l'Épître aux Éphésiens, chapitre 6, verset 10. Au reste, mes frères, fortifiez-vous en notre Seigneur et en la puissance de sa force. Soyez revêtus de toutes les armes de Dieu, afin que vous puissiez résister aux embûches du diable. Car nous n'avons point à combattre contre le sang et la chair, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les seigneurs du monde, gouverneurs des ténèbres de ce siècle, contre les malices spirituelles qui sont dans les airs. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin que vous puissiez résister au mauvais jour, et après avoir tout surmonté, demeurez fermes. Soyez donc fermes, ayant vos reins ceints de la vérité, et étant revêtus de la cuirasse de la justice, ayant les pieds chaussés de la préparation de l'évangile de paix, prenant surtout le bouclier de la foi, par lequel vous puissiez éteindre tous les dards enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Priant en votre esprit et par toutes sortes de prières et de supplications en tout temps, veillant à cela avec une entière persévérance et priant pour tous les saints. Et pour moi aussi, afin qu'il me soit donné de parler en toute liberté et avec hardiesse pour donner à connaître le mystère de l'Évangile. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 10, versets 3 à 6. Mais en marchant en la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes de notre guerre ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour la destruction des forteresses, détruisant les conseils et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et amenant toute pensée prisonnière à l'obéissance de Christ et ayant la vengeance toute prête contre toute désobéissance après que votre obéissance aura été entière. Que le Seigneur bénisse sa parole.
Juste pour commencer, je vous propose une lecture. En 1917, la ville d'Aqaba semblait imprenable. Toute armée s'approchant de la forteresse serait retrouvée face à la puissance de feu colossale des canons de la marine ancrés dans le port. Dans toutes les autres directions s'étendait un désert hostile, dépourvu d'eau et quasi infranchissable. À l'est se trouvait le fameux désert de Nafoud, l'enclume du soleil, et ses dunes brûlantes qui forment la frontière entre l'Arabie Saoudite et la Jordanie. Les Turcs croyaient Aqaba imprenable, mais ils se trompaient. Laurence d'Arabie amena une bande de cavaliers arabes à travers l'enfer de ce désert, avant de rallier à sa cause les habitants de la région du port. Le 6 juillet 1917, ils pénétrèrent dans Aqaba par le nord, le point aveugle de la forteresse. L'un des moments le plus spectaculaire du film Laurence d'Arabie est le long plan qui montre les cavaliers arabes montés sur leurs chevaux et les chameaux en train de galoper derrière Laurence, avec en fond d'écran les gigantesques canons de la marine complètement incapables d'arrêter leur course. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient tournés du mauvais côté, celui de la mer. Aqaba fut prise et les Turcs perdirent leur emprise sur la Palestine pour céder la place à un protectorat britannique, remplacé plus tard par l'État d'Israël. Les Turcs échouèrent dans leur défense d'Aqaba, ils commirent trois erreurs. 1. Ils ne connaissaient pas leur ennemi. 2. Ils ne savaient pas quel était leur point faible. 3. Ils ne possédaient pas les armes adéquates. La leçon pour nous est la suivante. 1. Nous devons connaître notre ennemi. Satan minimisera sa propre force, allant jusqu'à prétendre qu'il n'existe pas, afin de nous convaincre que nous sommes notre propre ennemi. S'il réussit, nous nous mettrons à combattre notre propre nature charnelle avec les forces de la chair, et nous échouerons à tous les coups. 2. Nous devons reconnaître nos propres faiblesses. Soyons honnêtes avec nous-mêmes, fortifions-nous avant que l'attaque commence. 3. Apprenons à bien connaître nos armes. Éphésiens 6. Si nous nous armons de la parole de Dieu, si Si nous nous protégeons par la prière et la fraternité des autres chrétiens, nous serons capables d'affronter notre ennemi et de l'emporter.
Peut-être que donc nous sommes dans le combat. Et il y a un texte qui m'a frappé en réfléchissant sur ce texte dans les psaumes. Dans le psaume 78, peut-être un verset qui va conclure ce que tu disais, lise Étienne. Dans le psaume 78, et au verset 9, c'est un psaume où nous sommes appelés à raconter à la génération qui suit les merveilles de Dieu, ce que Dieu a fait. Et voilà un verset 9 qui est frappant, et je vous le lis. « Les fils d'Éphraïm, armés et tirant l'arc, ont tourné le dos le jour du combat. » Donc peut-être être bien armé et avoir l'armure, et au moment du combat, tourner le dos, le résultat. Et ils n'ont pas gardé l'alliance de Dieu, ils ont refusé de marcher selon la loi, et ils ont oublié les actes et ses œuvres merveilleuses qu'il leur avait fait voir. Alors on a appris ce matin qu'il y avait plusieurs sortes de combats, des combats offensifs pour gagner quelque chose, il y a des combats défensifs. Et ici, vous avez peut-être remarqué dans la lecture d'Éphésiens qu'on n'est pas du tout dans un combat offensif, mais on a ces expressions de résister, de tenir ferme à plusieurs reprises. Donc l'enjeu ici, dans l'épître aux Éphésiens, c'est de risquer de perdre quelque chose d'essentiel pour notre vie de chrétien. Alors on a comparé aussi cet épître aux Éphésiens, enfin où on a pris comme exemple le livre de Josué, et il y avait deux parties, c'est Édouard je crois qui nous a dit cela. La première partie c'était pour acquérir le pays promis, le pays qui appartient à Dieu, ce pays dont il a dit ben, « mon pays je vous l'ai donné ». Entrez, prenez-le. Alors il y a un aspect là. Et puis la deuxième partie, c'est que vous êtes dans le pays, mais maintenant il faut posséder tout cela. Il faut faire attention qu'on ne vous dépossède pas. Et je crois que là, dans l'Épître aux Éphésiens, le thème c'est cela, être dépossédé. Mais de quoi ? Et je crois que c'est important, bon, il y aura des détails peut-être, mais à bien réaliser quel est l'enjeu ici. C'est pas une histoire de lutter contre des péchés. Mais l'apôtre Paul, dans cet épître aux Éphésiens, nous amène dans quelque chose qui est exceptionnel. Pour la période que nous vivons, et qui a commencé au moment de la Pentecôte, et qui se terminera lorsque l'Église sera enlevée. Une période extraordinaire où nous pouvons vivre nous les humains, avec cette relation, cette conscience de qui est Dieu, et de pouvoir être en relation constante avec lui. Dieu vivant veut être en contact, en relation vivante avec ses créatures. Le péché avait rompu ça, et par Christ, ceux qui croient peuvent profiter d'une intimité avec Dieu. Quelque chose qui avait été imaginé avant la fondation du monde, c'est le début de cet épître. Une relation où ceux qui croient sont pas seulement sauvés, mais ils sont élevés au rang des fils de Dieu, qui vont être associés pour l'éternité à la gloire de son fils premier-né, de son fils Jésus-Christ. Ce ne sont pas n'importe quel croyant. Les croyants avant la mort et la résurrection du Seigneur n'ont pas cet accès-là. Ceux qui viendront après l'enlèvement de l'Église n'auront pas accès à cela. Chacun de nous est un fils croyant, nous sommes des croyants, chacun de nous est un fils adopté pour Dieu, c'est ce qu'on trouve là dans le premier, au départ. Je lis cela au verset 5, prédestiné pour être adopté pour lui par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Pour quelle raison ? Donc c'est le choix de Dieu, sa volonté avant la fondation du monde, que ceux qui croiraient seraient ses fils, qu'il leur ferait connaître, découvrir qui ils sont, hein, aimés d'un amour éternel. Et la raison, c'est pour que ses fils puissent glorifier, c'est-à-dire célébrer la gloire de sa grâce, cette grâce qui s'approche pour faire de nous des fils associés à son fils pour l'éternité. La deuxième chose que nous trouvons dans cette épître, c'est que Dieu nous fait découvrir que nous les croyants, dans cette période exceptionnelle qui a commencé à la Pentecôte et qui terminera à l'enlèvement de l'Église, eh bien ces croyants forment ensemble l'épouse de Christ. Quelque chose qui est choisi de Dieu avant l'existence de toute création. Que ceux qui croiraient dans une période feraient partie de l'épouse de son cher fils. Et nous faisons partie de cela. Cette découverte nous amène dans une intimité avec notre Dieu, qui est notre Père. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Quand on vit cela, on est dans une plénitude. C'est ce qu'on trouve aussi à plusieurs reprises dans cela. L'ennemi, justement, veut agir dans cette relation que nous avons avec ce Père qui nous aime depuis l'éternité. L'ennemi veut brouiller cette relation, nous empêcher d'en profiter et devenir des chrétiens qui vivraient comme des pauvres, des malheureux. Et je crois que, si je voulais introduire comme ça, pour dire que justement l'enjeu c'est cela, que nous puissions jouir de cela, mais bien plus que ça. L'ennemi veut montrer que le Dieu qui nous a sauvés est incapable de pouvoir nous maintenir dans cette intimité de relation avec lui. Et l'enjeu est là. Chaque fois que nous sommes vaincus dans ce combat-là, c'est comme si on montrait que notre Dieu n'est pas capable de nous maintenir dans cette relation. Et je crois que cela doit nous faire penser à une chose et nous encourager. C'est pas du tout négatif ce que je dis là, mais nous encourager. On a un Dieu qui a un projet pour nous, qui nous a donné les moyens pour que nous puissions vivre cette relation maintenant et pour l'éternité. Eh bien voilà, nous avons aussi les capacités de résister à cet ennemi qui veut nous priver de cette joie, mais aussi priver notre Dieu de la gloire que nous pouvons lui rendre au quotidien.
On a lu tout à l'heure Éphésiens chapitre 6 et on a déjà eu des explications ce matin sur ce verset, alors je ne veux pas trop rentrer dans les détails. Mais il y a quand même plusieurs lectures de ce passage d'Éphésiens 6. Il y a une lecture relativement technique, ayant saint vos reins de la vérité. Alors la vérité, elle est dans la parole de Dieu. C'est une liste de choses à savoir, c'est des doctrines à savoir. Je mets ma ceinture de la vérité, c'est-à-dire je vérifie dans la liste. J'ai lu deux ouvrages sur le salut, un sur le Saint-Esprit, deux sur l'Église. Et je connais bien ça, et attention, si tu dis une erreur, moi j'ai bien compris, et je suis un bon combattant. C'est un peu caricatural, hein, excusez-moi, vous l'avez compris. C'est juste quand même, en ce sens qu'avoir la ceinture de la vérité, c'est pas être un ignorant de la parole de Dieu et des principales doctrines. Mais il me semble qu'il y a aussi quelque chose de totalement différent. Et je vous en parle à la suite de ce que Philippe vient dire. Si j'ai bien compris, on est adopté. On est des combattants, mais des combattants aimés de leur chef. Et la relation avec notre chef, c'est pas seulement se mettre au garde-à-vous, mais c'est le connaître et vivre avec lui. Alors, la vérité, pour vous, c'est des textes ou c'est quelqu'un? Le saint, le véritable. Il se présente avec ce titre dans l'Apocalypse. Il est venu sur cette terre pour parler de la vérité. Et les foules étaient là et écoutaient la vérité expliquée par Christ. Et quand je lis les évangiles, je vois Christ vrai dans ses paroles, dans le message qu'il donnait, mais vrai aussi en lui-même, dans sa manière d'être. Alors que le Seigneur nous donne d'entrer dans ce chapitre d'Éphésiens 6, de cette façon pratique, cette façon de communion avec Christ. Le deuxième point, ayant revêtu la cuirasse de la justice. Alors bien sûr, il y a un côté tout à fait pratique. Si j'ai fait comme la moitié de ma déclaration d'impôt, j'ai pas la cuirasse de la justice. C'est même des... Bon, la radio a parlé de ça, mais c'est pas pour parler de ce monde que je dis ça. On sait à quoi ça correspond, la justice pratique, dans la vérité de notre parole, dans notre manière d'être. C'est très juste. Et il faut surtout pas oublier ce côté. Mais j'aimerais vous dire, nous dire l'un à l'autre, connaissons Jésus-Christ le juste, dans sa manière exacte de présenter ce qu'est la justice de Dieu, avec grâce et avec vérité. Quand il rencontrait quelqu'un, quand il expliquait quelque chose, encore une fois, c'est Christ qui est là le modèle. Et puis les autres points sont là. Ayant chaussé vos pieds avec la préparation de l'évangile de paix. Bien sûr que si je veux annoncer l'évangile à mon voisin, il ne faut pas que j'ai commencé par lui crier après parce qu'il s'est égaré devant chez moi. C'est trop pratique ces choses-là et je prends cet exemple, c'est dangereux parce que je risque de tomber dans un piège personnellement. Et on est tellement faible. Non, qui c'est qui est venu apporter le message de la paix? Quand le Seigneur parle dans la synagogue à Nazareth, premier message public qui nous est donné dans le texte saint, dans l'évangile de Luc, il est là pour annoncer la délivrance à ceux qui sont des captifs. Il est là pour que les âmes qui sont dans la peine soient délivrées, paix avec Dieu, mais paix aussi du cœur, quand on sait qu'on est aimé, je reviens au point précédent. Et c'est un message sur lequel on insiste souvent, mais c'est une chose heureuse. Être paisible les uns avec les autres parce qu'on est déjà paisible avec Dieu, parce qu'on se sait aimé de lui. Christ est venu apporter la paix. Et puis, ensuite, il est question de la foi. Alors bon, la foi, on est tous au clair là-dessus, puisque... On a dit oui au Seigneur, on sait ce que c'est que la foi du salut. Oui, mais ça va beaucoup plus loin que ça. C'est la foi qui voit les choses comme Dieu les voit. J'ai de la peine à trouver le bon exemple ici. Mais il y a l'exemple, par exemple... d'Élisée, qui était avec un jeune homme qui n'arrivait pas à voir les choses correctement. Et il a fallu que Élisée prie pour que ce jeune homme voie les choses comme elles sont. Ce jeune homme, quel était son problème? Il voyait que les armées ennemies. Et il ne voyait pas l'armée de l'Éternel qui était là. Et combien de fois nous avons une vision formé par les critères de ce monde, formé peut-être par nos échecs, par nos craintes, alors que notre Dieu est un Dieu puissant. quelle vision avez-vous de l'Église et de l'Évangile aujourd'hui ? Bien sûr qu'il faut être humble, et que si on n'est pas humble, on va tomber tout de suite. Hein ? On va faire un faux pas, ça, y a pas de problème. Enfin, il n'y a pas de problème, si, il y aura un problème. Mais la vision de l'Église aujourd'hui, c'est une Église qui est aimée par Christ, une Église qui grandit. L'Évangile, c'est un message de Dieu qui est proclamé sur la terre entière, avec des milliers de conversions, chaque année, sans problème. Et j'aimerais, frères et sœurs, que nous redressions la tête en étant fiers de notre Dieu, de sa puissance, de ce qu'il accomplit parmi les siens, aujourd'hui sur la terre. On n'est pas des vaincus, on n'est pas des esclaves. On a dit qu'on était avec le vainqueur. Alors vivons-le encore une fois avec humilité, parce que nous sommes tout petits et faibles et prêts chacun à tomber. Mais celui qui nous aime est fort, puissant, et il agit, et en plus il est fidèle, siècle après siècle, comme seconde après seconde, pour son Église, comme pour chacun d'entre nous. Et la foi, c'est cela, c'est marcher avec cette confiance. La foi, Christ a été le modèle de la foi, on pourrait le dire aussi. Et puis il y a le casque du salut, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Alors il faut avoir connu la Bible, il faut avoir mémorisé des versets. Est-ce qu'on apprend toujours beaucoup de versets par cœur à l'école du dimanche ? Je sais plus parce que j'ai pas... j'ai été étonné en Colombie. On peut profiter d'une réunion comme ça, et puis on se met tous debout, la Bible fermée, et on a une liste d'une vingtaine de versets à réciter. Chacun la récite et on la récite ensemble parce qu'on a appris des versets. Des versets qui seront utiles quand, peut-être quand on fait une visite, quand on parle avec quelqu'un. Quand on est seul et que quand on conduit, on peut pas ouvrir la Bible quand même, c'est pas bien. Hein? Mais vivre avec la parole de Dieu, pour nous-mêmes, pour nourrir notre foi, pour connaître Christ. Alors voilà ce que j'avais à cœur de dire sur... Bon, il y a la prière ensuite, hein? C'est évident, la nécessité. Christ lui-même a été un homme de prière. Que le Seigneur nous donne de non pas seulement de connaître ces versets, non pas d'en avoir la lecture technique, mais d'en avoir cette lecture tellement douce à nos cœurs, être près de Christ dans le combat, lui le vainqueur. C'est un peu Josué se tenant devant le chef de l'armée de l'Éternel. Il a dû se déchausser, il était à terre devant lui, mais quand on est devant Christ, le combat est gagné. C'est à la gloire de Christ, et puis nos cœurs sont remplis de joie avec lui, que ce soit notre part.
De faire cette liste, enfin de la dérouler un peu, et on a vu qu'à chaque fois, il y avait quelque chose à faire, à apprendre. C'était pas quelque chose qui venait tout seul. Et on pourrait se dire, bon, voilà, il y en a qui vont préparer, qui vont nous enseigner, et puis... Mais je crois qu'en fait, il y a un effort personnel, individuel à faire. Et je voudrais qu'on vienne dans un verset du livre des Juges, au chapitre 3. Et on va lire les versets 1 et 2. Parce que ça s'adresse à tous. Ça s'adresse surtout aux plus jeunes. Et qu'est-ce qu'il y a dans ce verset ? Et ce sont ici les nations que l'Éternel laissa subsister pour éprouver par elle Israël, savoir tous ceux qui n'avaient pas connu toutes les guerres de Canaan, et cela seulement afin que les générations des fils d'Israël connaissent en l'apprenant ce que c'est que la guerre. Alors, c'est une armure, donc c'est pour un combat. On a dit ce matin, on est en guerre, tenez-vous prêts. Eh bien, pour chaque génération, il y a des choses qu'on ne peut apprendre qu'en combattant. Et Dieu, il avait déjà prévu ça. Donc,
le peuple, on voit, il rentre dans le pays, il y a une première bataille, on l'a vu ce matin, ils vont à la conquête, et puis après ils occupent le pays, et puis on pourrait se dire, ben, maintenant on occupe le pays et on profite, et puis il se passe plus rien, et puis de génération en génération, ça va rester comme ça. Eh bien non, à chaque génération, il y a à nouveau à réapprendre ce combat, et à se réapproprier ces choses dont on nous parle, pour que, voilà, on apprenne en la faisant, la guerre, et c'est Dieu qui le permet pour qu'on soit chacun fortifié, pour qu'on soit chacun capable, et que, effectivement, eh bien, quand viendra le problème, on soit capable aussi de pouvoir résister comme on l'a dans ces versets. Donc, s'il y a des difficultés, eh bien, sachons que Dieu les a prévues, il a même préparé ça dans un sens, entre guillemets. En tout cas, il a anticipé pour qu'on ne s'endorme pas sur nos lauriers, ou sur les lauriers des autres plutôt, mais qu'on s'approprie les choses pour être ceux qui vont être dynamiques et qui vont utiliser toutes ces potentialités que Dieu nous donne.
J'aimerais lire deux autres textes qui concernent le combat. Je ne crois pas qu'on les ait cités jusque-là, sinon indirectement. Dans l'Épître aux Romains au chapitre 13, versets 11 à 14, nous disent, Romains 13, 11, « Et encore ceci, connaissant le temps que c'est déjà l'heure de nous réveiller du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est fort avancée et le jour s'est approché. Rejetons donc les œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. » Les armes de la lumière. Conduisons-nous honnêtement comme de jour, non point en orgie ni en ivrognerie, non point en impudicité ni en débauche, non point en querelle ni en envie, mais revêtez le Seigneur Jésus-Christ et ne prenez pas soin de la chair pour satisfaire à ses convoitises. Et puis un autre texte dans la première épître aux Thessaloniciens au chapitre 5. Un Thessaloniciens 5, 4, « Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, de sorte que le jour vous surprenne comme un voleur, car vous êtes tous des fils de la lumière et des fils du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. Ainsi donc, ne dormons pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, revêtant la cuirasse de la foi et de l'amour, et pour casque l'espérance du salut, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi exhortez-vous l'un l'autre et édifiez-vous l'un l'autre, chacun en particulier, comme aussi vous le faites. » J'étais frappé par cette expression de Romains 13, verset 12 à la fin, « les armes de la lumière ». C'est comme si Paul nous disait, si vous vivez dans la lumière, en cherchant à vivre dans la transparence vis-à-vis de Dieu d'abord, mais aussi les uns vis-à-vis des autres, eh bien, cette position de vous placer dans la lumière, ça va devenir une arme positive. Je suis frappé qu'il y ait des débats actuellement sur... Alors, c'est peut-être un débat un peu parisien, excusez-moi, mais... quand on est à Paris et qu'on prend les transports en commun, on a un passe-navigo. Et j'ai des collègues qui s'insurgent beaucoup parce que avec ce passe-navigo, ben, on peut tracer où c'est que vous êtes allé, vous avez mis à telle station, vous êtes ressorti à telle station, à telle heure, etc. Et c'est une atteinte à la vie privée, etc., etc. Moi, j'ai aucun problème par rapport à ça. Alors après, il peut y avoir d'autres débats, on peut même penser... Apocalypse 13, etc. Mais je, sans rentrer dans le débat, j'ai pas de problème, parce que si on me dit mais pourquoi tu étais à telle station à telle heure, ben je peux expliquer pourquoi j'étais à telle station à telle heure. Mais c'est certain que ceux qui suivent les 4 sur 3 qu'on trouve dans le métro aussi à Paris, vous êtes protégés, vous êtes à Angoulême, bien heureux, bien sûr, mais qui font la pub pour des sites de rencontres extra-conjugales entre midi et 2, c'est ce qu'on voit dans le métro à Paris. Eh bien, c'est sûr qu'ils n'ont peut-être pas tellement envie de savoir qu'ils ont passé le portillon à telle heure et qu'ils sont repartis à telle heure, etc. Et on voit bien que si nous, on ne se place pas dans cette lumière de Dieu, eh bien, on est vulnérable. On devient vulnérable. Parce qu'on n'a pas revêtu les armes de la lumière. On ne vit pas de jour. On vit de nuit. Et c'est de nuit qu'on fait des tas de mauvaises choses. Celles qui sont énumérées en Romains 13 à la suite de ce que nous avons lu dans le verset 13. Donc on devient vulnérable. Tandis que si on vit dans la lumière, ben oui, je peux expliquer, je peux dire, ben voilà pourquoi j'ai fait cela. Et du coup, on est beaucoup moins vulnérable aux attaques que le diable peut faire contre nous. Alors donc on a à s'encourager à vivre dans la transparence les uns vis-à-vis des autres, et d'abord et avant tout vis-à-vis de notre Seigneur. C'est à cela que nous sommes appelés. Et alors ça nous fait penser à ces textes du début de la première épître de Jean, où il nous dit que si on vit dans la lumière, eh bien, dans ces cas-là, on a à la fois communion avec Dieu, avec son Fils Jésus-Christ, et les uns avec les autres. Et c'est la force du dernier verset du paragraphe que j'ai lu dans 1 Thessaloniciens 5, eh bien, ça pourra nous conduire à nous exhorter, à nous édifier les uns les autres, et ça va être aussi un encouragement pour que cette lutte pour vivre dans la lumière, on ne la conduise pas seul, mais aussi les uns avec les autres.
Il y a aussi un mot qui est important dans cette armure.
Satan propose quelque chose au Seigneur, au désert, il cite une partie de la parole, et je lis au verset 4, Jésus répondit disant, « Il est écrit que le diable lui propose autre chose. » Et puis le Seigneur, au verset 8, lui répond, « Il est écrit. » Et puis le diable recommence une troisième fois, et au verset 12, Jésus répondant lui dit, « Il est dit. » Et c'est la parole de Dieu. C'est le texte biblique lui-même. Je constate que dans bien des échanges, et pour tenter de ou se justifier ou essayer de résoudre bien des problèmes, des personnes essaient de faire le tour de la situation ou des difficultés avec leur capacité de raisonnement, une capacité que Dieu leur a donnée, leur logique, en oubliant que au fur et à mesure que nous lisons la parole de Dieu, et nous l'avons entendu ce matin, il y a quelque chose qui se transforme en nous. Notre vision des choses, de la réalité qui nous entoure, des attentes de Dieu et des ressources de Dieu change. Et plus j'avance et plus je suis persuadé que les discussions, c'est quelquefois utile d'échanger pour se comprendre, hein, mais les discussions pour établir quelque chose où l'homme amène une capacité intellectuelle sont stériles et n'aboutissent pas à quelque chose de solide. Alors que si, devant une argumentation, nous pouvons citer la parole de Dieu. Cette parole, comme cela est écrit, l'épître aux Hébreux par exemple, on le retrouve aussi dans une épître de Pierre, est vivante, puissante, elle agit, elle produit quelque chose véritablement, et la parole de Dieu c'est aussi une personne. Évangile selon Jean, chapitre 1, la parole était auprès de Dieu, la parole était Dieu. Puis, un peu plus loin, verset 14, la parole devint chair et habita au milieu de nous. Et le début de ce que nous avons lu dans l'épître aux Éphésiens, au chapitre 6, c'est bien ceci, au reste, mes frères, fortifiez-vous. Moi, je relis directement le texte. Fortifiez-vous dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. Et je constate qu'il y a une force peu commune dans le Seigneur à cause de deux points qui ont été cités tout à l'heure, savoir que les paroles qu'il transmet sont les paroles du Père. Les choses qu'il accomplit, qu'il vit, sont les choses que le Père lui donne à vivre. Alors, voilà où je voulais en venir. Je regarde le Seigneur comme Philippe nous invitait à faire et comme aussi Élie nous l'a rappelé. Je regarde comment il fait. Je constate que l'important, c'est pas ce qui est humain, c'est vraiment ce qui est divin. Et la victoire est remportée par ce qui est divin. L'invitation du Seigneur, c'est d'accomplir la pensée de Dieu. On voit quelqu'un qui apparaît comme faible. On voit prophétiquement un agneau qui est amené jusqu'à un lieu. On voit quelqu'un qui s'inscrit dans la pensée de Dieu, qui suit scrupuleusement la pensée de Dieu, qui accomplit ce qui est annoncé prophétiquement. On le voit défait, faible et remportant la plus grande victoire. Je regarde le Seigneur Jésus et je découvre ce que sont les ressources de Dieu pour remporter les victoires. Et chacun pourra faire une expérience, prendre les différents points qui ont été cités, et puis regarder dans la vie du Seigneur comment le Seigneur a vécu ces points-là. C'est quelque chose qui m'attache à sa personne, qui me conduit à me mettre derrière lui pour essayer de marcher dans l'empreinte de ses pas. Je ne remporte pas des victoires personnellement, mais le Seigneur en moi remporte des victoires. On a lu dans l'Ancien Testament, tenez-vous là, et voyez la délivrance de l'Éternel. Voilà, c'est Dieu qui remporte les victoires. Donc le lien avec le Seigneur Jésus, le fait de le contempler dans sa marche devant Dieu, Jésus, son nom d'homme, et le fait de suivre ce chemin-là, nous permet d'entrer dans ce passage et effectivement de pouvoir tenir ferme quand des choses difficiles se présentent.
Je propose trois exemples de vainqueurs dans la parole de Dieu à la suite de tout ce que l'on a entendu. Un premier dans l'évangile de Marc, au chapitre 5, c'est l'exemple de Jaïrus. Premier abord, on peut passer facilement sur le récit et trouver que ce n'est pas véritablement un vainqueur, mais moi je trouve que c'est un véritable vainqueur. Marc 5, le récit est aussi dans Luc 8. Marc 5, verset 35, « Il vient des gens de chez le chef de synagogue, donc de chez Jaïrus, disant « Ta fille est morte, pourquoi tourmentes-tu encore le maître ?» Et Jésus, ayant entendu la parole qui avait été dite, dit aussitôt au chef de synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Jaïrus vient de recevoir une terrible nouvelle. Il avait été à la rencontre de Jésus pour l'emmener avec lui, chez lui, et de chez lui lui parvient cette nouvelle par cette personne que sa fille est morte. Et puis ce point aussi supplémentaire, donc déjà ça l'affecte terriblement, difficile à comprendre, mais ça le percute. Et puis il y a ce qui est rajouté. Ne tourmente pas le maître ou ne dérange pas le maître. Et parfois je peux entendre ça aussi dans ma vie. Des voix de personnes qui peuvent me dire ne va pas plus loin, arrête-toi, c'est fini, il n'y a plus d'espoir, personne ne peut plus rien. Et beaucoup d'enfants de Dieu peuvent, quand quelque chose est mort, s'arrêter, ça peut être notre part. Mais il y a là la victoire de Jaïrus, c'est que il fait un choix de croire à la parole que lui dit Jésus, et à ne pas être influencé par la parole de celui qui vient chez lui et lui dit « Ne dérange pas le maître ». Lui, il choisit de laisser entrer Jésus chez lui malgré la réalité de la situation. Sa fille est morte. Il le laisse rentrer jusque dans la pièce où elle est couchée. Il fait ce choix de se laisser influencer par la parole de Dieu. Alors il y a le « on me dit »
et puis il y a le « ce que Jésus me dit ». Et je trouve que c'est un vrai vainqueur, ce Jaïrus, dans ce combat. Quand on le lit, ça va très vite, mais il a eu un combat qui a dû être terrible dans sa tête, dans ses pensées donc. Et là, c'est un magnifique exemple. Il ne tient pas compte de la parole de cette personne qui est venue là. D'ailleurs, c'est exactement la traduction, dans d'autres traductions, la Colombe notamment dit au verset 36, « Quand Jésus ayant entendu la parole qui avait été dite, c'est traduit par « Jésus ne tient pas compte de la parole de cette personne ». Un deuxième exemple, auquel beaucoup ont pensé probablement, c'est dans le premier livre de Samuel au chapitre 17, c'est David et Goliath. Au verset 45, on lit quelque chose d'extrêmement frappant. 1 Samuel 17, 45, et David dit aux Philistins, « Toi, tu viens avec moi avec une épée, avec une lance et avec un javelot, et moi, je viens à toi, au nom de l'Éternel des armées, du Dieu des troupes rangées d'Israël que tu as outragé. Et ce jour, l'Éternel te livrera en ma main, je te frapperai, jeterai ta tête de dessus toi, et je donnerai en ce jour les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux des cieux, aux animaux de la terre, et toute la terre saura qu'il y a un Dieu pour Israël. » Avant que David, qui avait à peu près 17 ans à cette époque-là, ne combatte, il pouvait affirmer cela quasiment yeux dans les yeux de son ennemi, dont on pouvait s'étonner d'ailleurs qu'un seul homme puisse paralyser une armée entière, puisse terroriser l'armée du Dieu d'Israël. Comment voyons-nous notre ennemi ? Avec cet œil humain, cette montagne de muscles, cet ennemi impressionnant ? Ou alors est-ce qu'on le regarde avec les yeux d'un David qui lui était du côté de Dieu, qui avait la force de Dieu, conscient de la puissance que pouvait lui donner Dieu, et il était certain d'avoir la victoire avec Dieu. Il peut même dire, voilà, qu'il vient accompagné de ce Dieu-là. Il vient accompagné de ce Dieu d'Israël qui est à ses côtés. Il n'a même pas d'épée en sa main, il peut affirmer qu'il va lui ôter la tête à ce Philistin. Il a juste sa fronde. Quelle victoire encore de la part de ce serviteur de Dieu. Et parfois aussi, on peut trop souvent, face à des situations qui paraissent humainement désespérées, eh bien, baisser les bras, alors que là, David vient nous dire, mais Goliath, il est tout petit, parce qu'il n'a pas Dieu. Et toi qui as Dieu, eh bien, tu as toute la capacité que te donne Dieu. Et on a cité tout à l'heure qu'on avait plus que ceux qui étaient ainsi avant la période de la croix de Christ. On a ce verset magnifique qu'on peut vraiment s'encourager, de Galates 2:20, « Christ vit en moi ». Nous avons ce verset d'un Corinthiens 3:16 qui nous dit que « l'Esprit de Dieu habite en moi ». On n'est donc pas seul. Et on a même en 2 Corinthiens 6:16 le fait que nous sommes le temple du Dieu vivant. Et je crois qu'Edgar a dit ce matin aussi des versets qu'on peut s'encourager. Ce n'est jamais lassant de les lire. En Éphésiens 3, au verset 16, « Selon les richesses de sa gloire, il vous donne d'être fortifiés en puissance par son esprit. Quant à l'homme intérieur, on est bien dans les pensées. » Si on tourne une page, on va arriver à Philippiens 4, au verset 13. « Je puis toutes choses en celui qui me fortifie. » En Colossiens 1, on regarde juste la page d'à côté, au verset 11. « Étant fortifié en toute force selon la puissance de sa gloire. » Le Seigneur Jésus, en Marc 9, nous dit lui-même « Toutes choses sont possibles à celui qui croit. » Toutes choses sont possibles à celui qui croit. Et puis le début de 1 Corinthiens, on a tout pleinement en Christ. En 1 Corinthiens 1, verset 5, « Dieu qui vous a donné dans le Christ Jésus, de ce qu'en toutes choses vous avez été enrichi en lui, en toute parole et toute connaissance, j'ai tout pleinement en Christ. »
Alors parfois mes raisonnements peuvent me dire ben, il te manque plein de trucs, c'est pas la peine que tu fasses quoi que ce soit. Et puis il y a cette parole de Dieu qui peut me dire eh ben voilà, tu as tout pleinement en Christ, alors va avec la force que je te donne et cette vérité. Dernier exemple, en nombre 13, 12 espions sont envoyés pour reconnaître le pays. Ils voient tous la même chose. Ils voient tous des géants, mais 10 d'entre eux rapportent ce verset 34 de nombre 13. Les deux qui sont à part, c'est Caleb et Josué, qui ont une vision différente. Mais les 10, voilà ce qu'ils nous rapportent. Et nous y avons vu des géants fils d'Anak, qui est de la race des géants. Et nous étions à nos yeux comme des sauterelles. Et nous étions de même à leurs yeux. Leur perception, leur raisonnement, leur pensée les fait voir à leurs yeux comme des sauterelles. Et ils expriment même ce qu'ils pensaient être dans l'esprit de leurs ennemis. Les géants, je pense qu'aucun leur a demandé comment ils se voyaient, mais ils estiment eux-mêmes qu'ils sont vus des yeux des géants comme des sauterelles. Qu'est-ce qui a mis dans leur pensée une telle disproportion? C'est un réel mensonge. Une sauterelle, c'est 2 cm de haut à peu près. Hein. Les géants, ils faisaient 3 mètres de haut. C'est toute proportion gardée, mais c'est à peu près ce que l'on a quand vous êtes au pied de la tour Eiffel, un homme de 2 mètres par rapport à une tour Eiffel de 300 mètres de haut. Eh bien, ils étaient en train de dire on est grand comme ça, et puis les géants qui sont face à nous sont grands comme la tour Eiffel. C'était une totale irréalité. Mais c'était dans leur tête comme cela. Qui les influençait? Josué et Caleb spécialement, il nous est dit au verset 24, « Mais mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit. » Donc avoir cette influence de l'Esprit de Dieu, comment c'est important. Joël a cité tout à l'heure Apocalypse 13, avec peut-être cette marque de la bête qui sera un jour une réalité. Eh bien, veillons à ce que le diable veut aussi marquer notre pensée déjà, pas physiquement, mais spirituellement, nous influencer. Eh bien, nous avons la capacité de résister avec la puissance que nous donne la parole de Dieu, l'épée de l'esprit, la ceinture de la vérité, le casque du salut. Nous avons cette capacité, il nous la donne, il nous la met à notre disposition, à nous de nous en saisir. Alors, le diable, il voudrait nous influencer, mais déjà, je crois qu'on trouve en Exode 29 une réponse déjà bien ancienne dans la parole de Dieu, lorsque il y avait le bélier de substitution qui était là pour consacrer, de faire un sacrifice et consacrer les fils de Aaron et lui-même. Il y avait du sang qui était mis sur le lobe de son oreille droite, sur son pouce droit et sur son orteil de pied droit, ainsi que ses fils. Est-ce que ce n'est pas une conséquence de l'œuvre de Christ qui veut transformer nos pensées, notre façon d'entendre, notre façon de recevoir ce qu'il a à nous dire, cette goutte de sang mise sur le lobe de l'oreille droite, afin qu'on puisse aussi avoir une action avec cette marque du pouce droit, et puis pour emprunter le chemin que lui a tracé lui-même pour nous, avec ce sang sur le pied droit.
Je voudrais lire ces deux expressions du verset 11 et du verset 13. Au verset 11, il est dit « Revêtez-vous de l'armure complète de Dieu, afin que vous puissiez tenir ferme contre les artifices du diable. » On sait que Satan est rusé. Il cherchera toujours une place de plus faible en nous pour intervenir. Alors, si nous sommes ainsi revêtus de cette armure comme un manteau, Satan ne peut rien trouver qui puisse ainsi nous faire du tort. Mais alors, le verset 13, il dit, c'est pourquoi prenez l'armure complète de Dieu. Donc, d'un côté, il faut revêtir l'armure, peut-être qu'un frère pourra donner des détails, mais alors, prenez l'armure. C'est-à-dire que c'est comme si Dieu disait, ben voilà, l'armure, elle est là. Et il est parlé des mauvais jours. Vous serez au mauvais jour, vous puissiez résister et après avoir tout surmonté. Donc, il y a des jours mauvais. Alors, Dieu nous avertit, il dit, voilà, vous avez cette armure à votre disposition, mais il faut la prendre. C'est comme un soldat qui s'en irait sans armes. Parce que c'est les armes, il les a. Souvent, les soldats ont des armes dans la caserne. Ben, s'il s'en va sans armes, là, s'il n'a pas de protection, on voit qu'il n'ira pas loin. Alors, c'est ça que l'armure complète est là. Et alors, nous devons la prendre. Il y a de nous revertir. Ma foi, Dieu nous dit, il faut prendre l'armure parce que les mauvais jours sont là. Faire attention, s'il y a un temps dans lequel nous vivons maintenant, ce sont bien les mauvais jours, nous avons besoin aussi de nous protéger contre Satan.
J'aimerais lire un texte où il est de nouveau question du combat, c'est en Colossiens au chapitre 4 et au verset 12. On y a fait allusion ce matin. Il s'agit d'un homme qui s'appelle Épaphras, et que Paul recommande par son statut de combattant. Colossiens 4, 12, Épaphras qui est des vôtres, esclave du Christ Jésus, vous salue, combattant toujours pour vous par des prières, afin que vous demeuriez parfaits et bien assurés dans toute la volonté de Dieu. Car je lui rends témoignage qu'il est dans un grand travail de cœur pour vous, et pour ceux qui sont à Laodicée, et pour ceux qui sont à Hiérapolis. Pose juste quelques pensées pas très abouties sur ce sujet du combat par la prière. Tout d'abord, il ne faut pas se tromper. Dans le combat par la prière, on ne combat pas Dieu. Ça vous semble évident, mais parfois on entend qu'il faut assiéger le trône de la grâce, comme si le trône de la grâce était protégé par une forteresse et qu'on avait à l'assiéger. Ah non, pas du tout. Nous avons, comme le dit l'Épître aux Hébreux, approchons-nous donc, nous avons un libre accès. Ça vaut la peine de relire l'expression d'Hébreux 4, dans sa force, approchons-nous donc avec confiance du trône de la grâce. C'est pas avec des armes, non. On n'a pas assiégé le trône de la grâce, c'est pas comme si Dieu était hostile contre nous et qu'on ait à le fléchir par des prières qui seraient instantes. Donc vous voyez, il faut vraiment qu'on change notre état d'esprit, et cette expression devait être bannie parmi nous. Alors qu'est-ce que ça veut dire ce combat par des prières? Bien, je suis frappé de voir que dans la prière que notre Seigneur nous a enseigné, ce qu'on appelle le Notre Père, il y a, c'est la cinquième ou sixième expression de cette prière que nous trouvons en plusieurs reprises, en particulier dans la sixième mention, Matthieu chapitre 6, verset 13, « Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal ou délivre-nous du malin. » Donc ça, c'est quand même une prière qu'on peut faire monter. Le Seigneur lui-même nous l'a enseigné. On peut lui demander d'être en prière, d'être gardé de la tentation, d'être gardé du mal. C'est une prière que l'on peut faire monter. Et une autre forme de prière qu'on peut faire monter, c'est celle que faisait Épaphras, c'est on peut demander à ce qu'on demeure parfait, bien assuré dans toute la volonté de Dieu. C'est un combat dans nos prières. Pourquoi ? Parce que dans nos prières, spontanément, c'est quoi nos prières ? C'est « Seigneur, fais qu'aujourd'hui ça se passe bien ». Je caricature, mais c'est un peu ça. « Seigneur, je te demande qu'aujourd'hui la journée se passe bien ». Et si la journée s'est bien passée, merci Seigneur, parce que la journée s'est bien passée. Encore, on l'oublie parfois. Ce que le combat dans les prières, c'est demander ce que Paul demande dans les prières, ce que Épaphras demande dans les prières, ce que nous trouvons dans la prière dont on a lu quelques versets, Éphésiens à l'instant, Éphésiens chapitre 3, Éphésiens chapitre 1, Colossiens chapitre 1, etc. Relisons les prières de Paul, et elles sont assez éloignées, hélas, des nôtres, parce qu'elles sont souvent quant à une progression spirituelle, quant à une meilleure compréhension de la volonté de Dieu, quant à une croissance de l'homme intérieur. Et je pense qu'il faut qu'on combatte pour justement réorienter nos prières dans ce sens-là, dans un sens moins circonstance-centré, mais plus concentré sur ce que Dieu veut pour nous. Et aussi, la prière, elle nous met dans cette situation de dépendance de Dieu qui nous permet de nous rappeler que nos combats sont les siens et que finalement nous on ne peut pas. C'est ça fondamentalement l'intérêt de la prière, nous placer dans cette dépendance de Dieu, non pas lui apprendre des choses qu'il sait déjà, mais nous placer dans cette dépendance de Dieu. Et puis un autre élément, et je termine par là, c'est que Épaphras, il combat toujours pour vous par des prières. Autrement dit, la prière, le combat par la prière, eh bien, il a cela de fantastique, c'est qu'il nous permet de combattre les uns pour les autres. Alors l'armure, certes, chacun de nous a la revêtir, mais néanmoins, on a à combattre les uns pour les autres, à s'entraider, comme ces légions romaines qui étaient extrêmement soudées, où quand elles s'avançaient, on voyait parfois, on avait l'impression qu'il y avait qu'un immense bouclier, parce que les boucliers étaient tellement jointifs qu'il n'y avait aucun espace pour que les flèches puissent pénétrer entre les combattants. Et donc, on voit aussi cette force de la prière commune, de la prière les uns pour les autres, et c'est un encouragement, enfin, je le prends directement pour moi, un encouragement à davantage prier les uns pour les autres, à combattre pour toi, par la prière, parce que c'est un moyen aussi de se fortifier les uns les autres. Et si mon frère prie pour moi et que moi je prie pour lui, eh bien, on va être beaucoup plus fort que si on était chacun dans notre coin. Donc, encourageons-nous à ce combat par la prière en essayant de bien le comprendre.
Alors, si tu me permets de prendre la suite. Prier les uns pour les autres. Je prends simplement l'exemple de Paul, qui demandait qu'on prie pour lui, et nous allons lire les différents versets où Paul a demandé ses prières. Nous en avons donc un dans Éphésiens 6, le verset 19. « C'est afin qu'il me soit donné de parler à bouche ouverte pour donner à connaître avec hardiesse le mystère de l'Évangile. » Est-ce que vous priez pour le frère qui prie, qui parle, pardon? C'est indispensable. On a des choses sur le cœur, et si on se lève et si on se met à bafouiller et que personne comprend. Paul lui-même demandait à ce qu'on prie pour que le message soit clair. Alors, je vous en supplie, aidez-nous. Et si vous voulez que les réunions soient intéressantes, il faut commencer par travailler comme ça, mes chers amis. Autre verset, 2 Corinthiens 1, 11, qui nous a délivré, en qui nous espérons, qu'il nous délivrera aussi encore, vous aussi, coopérant par vos supplications pour nous, afin que pour le don de grâce qui nous est accordé par le moyen de plusieurs personnes, des actions de grâce soient rendues pour nous par plusieurs. Vous aimez que ça se passe bien dans la vie collective, pour tout le monde. Et quel est le témoignage de ça? Ben, c'est quand il y a des actions de grâce à la fin. Ne priez pas seulement pour que les messages soient intéressants, mais qu'on les reçoive avec joie. Et qu'il y ait des actions de grâce. La qualité des réunions ne dépend pas tellement de celui qui parle, mais beaucoup plus de ceux qui prient. Bien sûr qu'elle dépend de ce que notre Dieu donne par son esprit. Alors, verset suivant, il y a Colossiens 4, 3, on l'a lu. Romains 15, verset 30. Romains 15, verset 30, « Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi, dans vos prières à Dieu, pour moi, afin que je sois délivré des incrédules qui sont en Judée et que mon service que j'ai à accomplir à Jérusalem soit agréable. Que je sois délivré des incrédules. » C'est très bien de parler des persécutions. C'est très bien de donner des nouvelles des missionnaires qui sont dans des situations difficiles. C'est encore mieux de prier pour eux. C'est ce que Paul demandait dans ses versets. Alors, Romains 15, il y a 1 Thessaloniciens 5:25 où il demande aussi les prières. Mais c'est simplement un rappel. Frères, priez pour nous. 2 Thessaloniciens 3:1, au reste frères, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur court, qu'elle soit glorifiée comme elle l'est aussi chez vous. La puissance de la parole qui court. On prie pour qu'elle soit traduite, on prie pour qu'elle soit diffusée, mais c'est vraiment dans le sens de ces versets et qu'il y ait de la gloire de Dieu par cette parole qui est répandue. Donc c'était 2 Thessaloniciens 3 et enfin Hébreux 13 verset 18.
Hébreux 13, verset 18, priez pour nous, car nous croyons que nous avons une bonne conscience, désirant de nous bien conduire en toutes choses. La bonne conscience des serviteurs de Dieu. Priez pour les serviteurs eux-mêmes, c'est pas des super chrétiens. C'est des chrétiens qui sont fragiles comme les autres, ceux qui servent publiquement. Et nous avons besoin, les uns et les autres, mais spécialement ceux qui sont en vue, des prières de tous nos frères et sœurs pour que nous marchions en toute droiture devant Dieu, afin que le message que Dieu désire donner soit donné avec toute la clarté et par l'action de l'Esprit pour la bénédiction de tous. Alors voilà des versets tout à fait pratiques.
Je sais que mes parents sont au travail en ce moment pour que je lise correctement. Je vais vous lire juste des versets qui mettent un peu en valeur ce que vient de dire Élie. Donc en Philippiens 4, versets 2 et 3. Je supplie Évodie et je supplie Saint-Tiche d'avoir la même pensée dans le Seigneur. Oui, je te prie aussi, toi, vrai compagnon de travail, aide-les, elles qui n'ont pas combattu avec moi dans l'Évangile. Donc il dit aide-les, mais je pense que si on le traduit, ça doit être prie pour elles, encourage-les, fortifie-les, accompagne-les dans ce travail pour qu'elles le fassent bien. Et pour illustrer encore ça, on en a parlé tout à l'heure avec les jeunes, c'est dans Exode 4, on peut voir Moïse, il est tout inquiet, l'Éternel lui demande d'aller parler à Pharaon, il sait pas comment s'y prendre, il est là, il a peur de bafouiller, un peu comme ce que je fais actuellement, l'Éternel, qu'est-ce qu'il dit à Moïse? Il lui dit, mais qui c'est qui a créé le muet? Donc on va reprendre les versets, comme ça on pourra l'avoir lu. Donc verset 11. Et l'Éternel dit, qui est-ce qui a donné une bouche à l'homme? Ou qui a fait le muet? Ou le sourd? Ou le voyant? Ou l'aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Et maintenant, va, je serai ta bouche et je t'enseignerai ce que tu diras. Donc on va sauter quelques passages. Et là, l'Éternel dit à Moïse, je te donnerai une aide qui soit avec toi. Et il lui dit, va voir Aaron, ton frère, il est lévite et il t'aidera. Il saura exprimer les choses à ta place si tu n'y arrives pas. Je me souviens, une fois, on était en camp, et on a décidé d'aller faire de l'évangélisation en ville. Pour la plupart, on était inexpérimentés là-dedans. Et il y a le frère qui avait plus d'expérience, qui nous encadrait pour cette sortie. Lui, il a dit, au lieu que vous y alliez tout seul comme quelqu'un qui y va sans réfléchir, vous y allez à deux. On a dit à deux, ça va faire un peu sectaire, ça fait un peu la personne qui arrive pour imposer quelque chose. Il a fait non, vous y allez à deux, mais au moment où vous avez à parler, il y en a qu'un seul qui parle, l'autre se tient en retrait et il prie pour l'autre. Donc là, on peut voir vraiment un aspect très pratique et très concret dans ces deux passages de ce que le Seigneur peut nous donner de pratiquer pour apporter sa parole.
Tout au long de cette journée, nous avons parlé de combat. Il faut revêtir l'armure. Mais tout combattant se prépare, ce que nous avons vu aussi, car il faut être exercé au combat. Ce qui nous permet de nous exercer, c'est la parole de Dieu. Je voulais un passage de 2 Chroniques 20, quand Josaphat demande à l'Éternel, parce qu'il y a une multitude de Moab qui vient à sa rencontre, à la rencontre de Judas. On peut lire. Verset 15, 2 Chroniques 20, verset 15. Ainsi vous dit l'Éternel, ne craignez point et ne soyez point effrayés à cause de cette grande multitude. Car cette guerre n'est pas la vôtre, mais celle de Dieu. Demain, descendez contre eux. Voici, ils vont monter vers la montée de Tzitz. Il leur dit ce qu'ils vont faire. Et vous le trouverez au bout de la vallée, dans le désert de Jéruel. Ce n'est point à vous de combattre en cette affaire. Présentez-vous. Et tenez-vous là, pas là-bas, pas ici, là, là où Dieu nous dit de nous tenir. Et voyez la délivrance de l'Éternel qui est avec vous. Juda et Jérusalem, ne craignez pas et ne soyez pas effrayés. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. On voit après dans les passages suivants le résultat. Ils n'ont rien eu à faire, ils n'ont que pu que constater qu'ils s'étaient entretués entre eux. Et il est dit au verset 26, « Et le quatrième jour, ils s'assemblèrent dans la vallée de Béraka. » La bénédiction, nous dit la note. « Car là, ils bénirent l'Éternel. » N'oublions pas que nous avons Dieu dans tous les combats.
Juste une pensée encore, on peut peut-être.
Juste une pensée pour reprendre l'idée d'Étienne tout à l'heure sur les vainqueurs. Reprendre un exemple qu'il a cité. Un peu plus loin, après ce qu'il a dit, celui de Caleb, justement, je vous propose de lire en Josué 14, où Caleb va faire un petit peu le résumé de sa vie, il va raconter tout ce qu'il a traversé avec le peuple, mais pas, il va pas raconter ses exploits, ni ses victoires, et il en a sûrement eu, mais raconter ce qui vraiment l'a maintenu, et il y a un verset très important dans ce qu'il dit. Donc je ne vais pas lire le passage pour pas prendre trop de temps, mais vous pouvez lire donc à partir du verset 6 jusqu'au verset fin du verset 13. Mais il y a quelque chose d'important dans ce que dit Caleb, donc c'est le verset 10. Et maintenant, c'est Caleb qui parle, hein. Et maintenant, voici comme il l'a dit, l'Éternel m'a conservé en vie ces 45 ans. Depuis que l'Éternel a dit cette parole à Moïse, lorsque Israël marchait dans le désert, et maintenant, voici, moi je suis aujourd'hui âgé de 85 ans, je suis encore aujourd'hui fort comme le jour où Moïse m'envoya. Telle que ma force était alors, telle ma force est maintenant pour la guerre, pour sortir et pour entrer. C'est fort ce que dit Caleb, parce qu'il a vécu tous les combats d'Israël pour entrer dans le pays. On en a parlé un peu ce matin, c'est Édouard qui l'a dit, qu'il fallait faire la guerre pour entrer dans le pays. Maintenant, on est dans le pays, Jean-Philippe l'a rappelé tout à l'heure, et la force de Caleb a été maintenue pour sortir, pour entrer, et encore maintenant qu'il est dans le pays. On va un peu plus loin, les 2-3 versets après, pour retourner sur l'idée qui a été développée par Joël tout à l'heure, le combat par la prière. Il y a Caleb qui continue son travail, son service envers les autres. Pour ceux qui ont participé à l'atelier sur le bon combat, j'y étais. Le bon combat est en fait donc un combat pour les autres. On l'a beaucoup dit. On voit que Caleb va continuer ce bon combat en disant, pour rappeler donc le combat par la prière, il va demander à posséder une certaine partie du pays, la montagne d'Éphraïm, sauf erreur, et il va demander aussi à Josué le fait qu'il, lui, il va se battre, il va continuer à se battre pour déposséder avec l'Éternel, hein, pas tout seul, pas par ses propres forces, il va continuer à se battre pour déposséder ceux qui habitent cette région.
Et on voit que Josué, qui est une image de Christ, Edouard l'a rappelé ce matin, va lui donner sa bénédiction, va le valider sa position, si vous me permettez l'expression. Le résultat, apparemment, il va déposséder et prendre possession de ce qui lui est donné. Un peu plus loin aussi, pour voir le fait que, justement, maintenant qu'on est dans le pays et qu'on a à se défendre, contre les attaques de l'ennemi, on peut voir cet avertissement que... Je parle trop fort. Pardon. On peut voir cet avertissement que donne Josué, à tout le peuple qui est déjà dans le pays. C'est le verset 3 du chapitre 18, un peu plus loin. On voit que le peuple se réunit, le partage a commencé à être fait, certaines tribus n'ont pas encore de part dans le pays. Et qu'est-ce que dit Josué ? Alors qu'il leur avait été dit d'aller, de prendre possession du pays, l'Éternel l'avait dit aussi, et certaines n'ont pas encore leur part. Qu'est-ce que dit Josué ? Verset 3, pardon. Josué dit aux fils d'Israël, « Jusque à quand vous porterez-vous lâchement à aller prendre possession du pays que je vous ai, que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous a donné ?» Josué est fort dans ce qu'il dit. Il reproche au peuple d'être lâche, de ne pas vouloir justement prendre possession complètement du pays. Donc c'est un avertissement aussi qui peut être pour nous. Il y a cet encouragement à justement ne pas oublier que tout ce que Dieu nous a donné, il nous l'a donné richement, des versets nous le disent, c'est Paul qui le rappelle, tout ce que nous avons été bénis richement, on n'a pas à rester lâche sur nos positions, il nous faut justement aller et profiter de tout ce que Dieu nous a donné. C'est là aussi le combat, le vrai combat de la foi, et donc ce combat par la prière à l'image de Caleb qui peut être pour nous bien sûr un service et le rôle de chacun pour les autres, pour l'assemblée.
Vous pouvez chanter dans le 210 des hymnes et cantiques les strophes 4 et 6.